En traitant le thème de l'épreuve, on est certain d'intéresser tout le monde, car le chrétien sur la terre rencontre des épreuves. Cette conférence, qui va prendre comme exemple le roi Ézéchias, s'insère dans un ensemble de conférences. Je vous avais déjà présenté trois points. Le contexte, j'avais présenté l'œuvre et aussi l'homme Ézéchias. Aujourd'hui, je traiterai donc l'épreuve d'Ézéchias et peut-être même qu'une partie, et certainement même qu'une partie de l'épreuve d'Ézéchias. Pourquoi ? Parce que Ézéchias est confronté à quatre types d'épreuves et ça serait trop long de traiter les quatre. Donc peut-être pour une autre fois, je me contenterai aujourd'hui de vous traiter l'épreuve intérieure d'Ézéchias. Un rappel, parce que j'aime bien situer les choses dans leur contexte, et à vrai dire, cette conférence est donc le numéro 3 dans la série. Il faut se rappeler que nous sommes en un temps où l'Assyrie est le peuple dominateur de tout le Proche et Moyen-Orient. C'est un peuple très ancien, puisque la parole de Dieu nous en parle dès le début de la Genèse. Au temps d'Ézéchias, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et l'Empire assyrien a eu bien sûr son début à Ninive, et puis il a été absent pendant quelques siècles, et à partir du 10e siècle, on a ce qu'on appelle l'Empire néo-assyrien. L'Assyrie ressurgit et devient un peuple puissant et dominateur. Il va y avoir plusieurs extensions, donc ici on voit au 9e siècle, c'est toute la partie verte, puis la partie bleue, c'est au temps d'Ézéchias. Un effort pour dominer toujours plus loin, c'est principalement du temps de Sennacherib. Et l'apogée de l'Assyrie se passera au temps d'Assurbanipal, et vous voyez qu'il va même conquérir l'Égypte et sera maître de tout le monde antique. On ne va pas lire toute cette liste de rois assyriens, mais je voudrais vous faire remarquer que depuis le milieu du 19e siècle, on sait déchiffrer les caractères cunéiformes. Et à ce moment-là, les nombreuses tablettes, les nombreux monuments de pierre ont parlé. Et on a pu dresser, de façon certaine, la liste des rois assyriens. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est que la Bible parle de plusieurs rois assyriens, et entre autres de Tiglath-Phalazar, Tiglath-Pileser dans la Bible, mais peu importe, ça c'est la vraie prononciation, Salmanazar, Sargon, Sennacherib et Assaradon. Et au moment d'Ézéchias, eh bien voilà, nous sommes au temps de Sennacherib. Et c'est quand même extraordinaire de penser que pendant 27 siècles, la Bible a toujours affirmé que ces rois existaient, et quelques-uns pouvaient dire, oui, mais enfin, vous inventez les noms, ça sonne bien peut-être, mais ce n'est pas automatiquement vrai. Et au milieu du 19e siècle, les pierres parlent, et la Bible a dit vrai, ces cinq rois ont bien existé, ces cinq rois se succèdent bien. Ouais. Et ça, c'est un encouragement pour nous, la parole de Dieu dit la vérité. Bien sûr, avec Ézéchias, nous nous trouvons en Israël, et vous avez une représentation d'artiste du temple de Salomon, avec la mer de fonte sur la droite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, le peuple d'Israël a été idolâtre. Dans le livre des Juges, on trouve cette parole, « Et les fils d'Israël provoquèrent l'Éternel et abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astaroth. » Et vous avez ici une représentation sur la gauche de l'idole, donc Baal, et d'Astarté, la divinité féminine. Et il est bon peut-être de dire au passage qu'à l'époque, il y avait de nombreux cultes, on va dire idolâtres, mais plus que cela, sataniques, entre autres le culte de Moloch, où on offrait les enfants au dieu Moloch. Et ces cultes étaient toujours, on n'arrive pas bien à comprendre des fois ce qui se passe dans le monde, tant qu'on ne sait pas que tous les cultes antiques sont des cultes sexuels. Il faut le dire en un jour où on voit la sexualité s'étaler partout. C'est la religion d'antan. Pourquoi ? Parce que c'est un mystère, la vie. La sexualité, c'est quand même un mystère, cela. Et donc, il y avait le dieu mâle, il y avait le dieu femelle, qui peut s'appeler, suivant les civilisations, d'une manière ou de l'autre. Mais c'est toujours la même chose. Et ces cultes, la parole de Dieu nous en parle, étaient toujours accompagnés de prostitution. Donc, les fils d'Israël, eh bien, bien qu'avertis par Moïse, vont finalement s'adapter et imiter le peuple. Le père d'Ézéchias s'appelait Akaz. Akaz, la parole de Dieu en fait un bilan, et je vous lis que les titres. En quatre points, il y eut du temps de son règne des guerres, de l'apostasie, du rejet de la vérité, de l'immoralité et un culte à Satan. Pourquoi un culte à Satan? Parce que c'est très clair. Il nous est dit que les propres frères d'Ézéchias furent offerts par le feu à Moloch. Vous vous rendez compte le contexte, un roi d'Israël. Et la parole en trois mots, trois versets, fait le bilan d'une vie déplorable. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père, 2 Rois 16-2. On ne le mit pas dans les sépulcres des rois d'Israël, 2 Chroniques 28-27. Son règne s'est appelé son péché en 2 Chroniques 29, verset 19. Et à l'époque, on avait tiré la conclusion suivante. Quand tout est noir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'une impossibilité peut devenir une opportunité pour Dieu et pour la foi? Pour situer un peu les choses, pour donner un plan général, je vous montre le plan de la vie d'Ézéchias tel que la parole de Dieu nous le présente. Il commence à régner, il a 25 ans, et avec une énergie qui est remarquable, il va faire une réforme totale, et c'est ce que j'appelais l'œuvre d'Ézéchias. Donc purification du temple, rétablissement du service, rétablissement de la Pâque, rétablissement des dîmes. Il rebâtit, pour ainsi dire, le temple et l'autel sur son emplacement. C'est-à-dire, il remet les choses en place. Tout se passe bien, et la parole de Dieu ne nous dit rien des 13 années qui ont suivi. Tout cela se passant la première année de son règne. Et puis, la 14e année de son règne, alors, c'est l'épreuve. Tout tombe en même temps. Et la question se pose, est-ce que cet homme, qui a tant travaillé pour Dieu, est-ce que cet homme sera fidèle lorsque l'épreuve l'atteindra? Et cela nous interpelle chacun. Les Suisses ont coutume de dire, on ne connaît pas la saveur d'un sachet de thé tant qu'on ne l'a pas ébouillanté. C'est vrai. Et la parole de Dieu fait un bilan de sa vie qui est très beau par rapport à celui de son père. Quand on veut étudier un sujet, il faut, avec une concordance, chercher tous les passages qui en parlent. On peut être surpris, parce que là, ils n'y sont pas tous, de voir le nombre de chapitres que la parole de Dieu accorde au roi Ézéchias. Là, il n'y en a peut-être que la moitié. J'ai mis simplement les passages qui nous permettent d'avoir le panorama complet de sa vie. Donc, la parole de Dieu s'attarde sur cet homme. Je crois que ça vaut la peine de regarder en détail pourquoi il est tant parlé d'Ézéchias. Je vous ai dit que la première partie de sa vie était consacrée par une œuvre extraordinaire. Et la parole de Dieu fait un bilan. Quant à la purification du sanctuaire, 2 Chroniques 29-18, nous avons purifié la maison de l'Éternel. Le service avait été arrêté par son père, le service de la maison de l'Éternel fut rétabli, 2 Chroniques 29-35. La Pâque n'était plus célébrée, ils firent la Pâque au Dieu d'Israël, 2 Chroniques 31. Les dîmes n'étaient plus versées, les serviteurs étaient rentrés à la maison, ils apportèrent la dîme de tout en abondance, 2 Chroniques 31, verset 5. Si nous récapitulons, ou essayons de récapituler cette première partie de la vie d'Ézéchias, on peut dire qu'il apparaît à un moment très noir de l'histoire du peuple d'Israël, mais que Dieu, par lui, va faire un miracle. Et c'est une pensée importante. On pourrait être découragé, on pourrait dire, mais enfin, vous savez, avec les parents que j'ai eus, la psychologie moderne s'en sert beaucoup. Ah oui, si ceci, si cela, si autre chose. Eh bien, si vous avez eu de mauvais parents, rien ne vous empêche d'être de bons croyants et de bons parents. Il suffit de retourner à Dieu, c'est tout. Donc, il apparaît un moment très noir de l'histoire du peuple d'Israël, et quel qu'ait pu être son père, il décide de marcher avec Dieu. Et on ne brille jamais autant que quand on est dans des ténèbres. Je suis stupéfait, vous avez probablement des ordinateurs chez vous, et celui-ci a une petite diode là, qui clignote. Et je peux dormir le jour en plein jour, mais la nuit, il me faut le noir. C'est comme ça, sinon ça m'indispose. Mais vous savez que cette petite diode, c'est rien du tout. Ça illumine une pièce de 16 mètres carrés. Incroyable. Donc, plus le contexte est noir, plus on peut facilement briller en un mot. C'est quand même intéressant à réfléchir et pas dire bon, on ne peut rien faire. Non, non, la plus petite lumière dans l'obscurité resplendit comme si c'était un spot de 3000 watts. Ézéchias résout tous les problèmes sur quelle base? Sur la base d'un retour à Dieu sans compromis. Et c'est important. Ézéchias, selon l'expression de Tite 2.7, est un modèle de bonnes œuvres. Il est un modèle pour les fidèles et j'ai dit qu'il remportait allègrement la médaille d'or de la fidélité et du travail qu'il fait pour le Seigneur. Tout était noir avant qu'Ézéchias arrive sur le trône, et puis maintenant, tout est lumineux. Mais la question se pose, l'œuvre d'Ézéchias résistera-t-elle au feu de l'épreuve? Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'épreuve, sous-titrée l'épreuve. Et il faut réfléchir, parce que cette pensée, on va dire, est profonde quand même. L'épreuve, c'est l'épreuve. L'épreuve à l'apostrophe, c'est l'épreuve à LES, preuve. C'est là que nous allons, si vous passez l'expression, montrer ce que nous avons dans le ventre. Quand tout va bien, on ne voit pas. C'est la fidélité. Mais quand vous êtes lacéré ou écrasé de tous les côtés, eh bien, qu'est-ce qui sort de tout ça? Vous savez qu'une fleur ne donne son parfum, du moins l'intensité de son parfum, que quand elle est écrasée. Et voilà. Quand on est écrasé, quel parfum dégageons-nous? Pas toujours brillant, hein, je ne dirais pas que au sein de ma propre épreuve, j'ai toujours dégagé une bonne odeur. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on est ce qu'on est, et on doit être droit et vrai devant Dieu. Mais dans le principe, l'épreuve va manifester ce que nous sommes, ce que nous croyons réellement. Donc, Ézéchias se présente à nous comme un roi pieux dont la foi va être éprouvée. Mais on est parfois seul dans l'épreuve, mais dans le cas d'Ézéchias, ce n'est pas le cas. Vous avez ici une représentation du manuscrit d'Ésaïe, découvert à Qumran en mai 947, avec, bien sûr, des tas de prophéties à l'intérieur. Et j'ai mis en titre « Un prophète sur deux sort de l'ombre ». Alors, ça peut paraître ambigu, tout ça. Celui qui sort de l'ombre, c'est Ésaïe. Parce que, alors qu'on ne le voyait pas dans l'œuvre d'Ézéchias, au moment de l'épreuve, on voit Ésaïe qui sort, et qui est pas omniprésent, mais qui est très présent. Et puis il y en a un qui reste dans l'ombre, vous le voyez en gris là, c'est Miché. Eh oui, du temps d'Ézéchias, il y avait deux prophètes. Il y avait Ésaïe et il y avait Miché. Et Miché, eh bien lui on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait rien fait. On ne le voit pas. Et ce n'est que Jérémie qui, 150 ans mettons après, va faire mention de Miché en disant, mais de ce jour-là, il y avait Miché qui prêchait et qui disait ceci et cela. Ah bon? Mais on ne le sait pas par le témoignage de la parole. Nous avons des leçons à tirer de cela, c'est que la parole de Dieu ne nous dit pas tout. Elle nous dit ce qui nous est utile. Et attention, justement, aux généralisations faciles ou à faire parler des silences. C'est assez complexe, nous devons être prudents dans l'interprétation des textes. L'épreuve d'Ézéchias comprend quatre parties. Un, l'attaque du roi d'Assyrie. Deux, la maladie d'Ézéchias. 3. L'ambassade de Babylone. Et 4. L'épreuve secrète. En bleu, ce que j'ai appelé l'attaque extérieure, c'est-à-dire ce sont deux rois qui vont venir, un contre Ézéchias et le second, au contraire, pour le flatter. Et puis, en jaune, ce que j'ai appelé l'épreuve intérieure par opposition à extérieure, ou on pourrait dire épreuve personnelle d'Ézéchias, sa maladie, et puis l'épreuve secrète. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que c'est l'épreuve secrète? Attendez un tout petit moment, après la pause, vous le saurez. Mais avant, vous ne le saurez pas. Donc, nous ne pouvons pas traiter la totalité du sujet en deux heures. Je ne vous traite aujourd'hui que l'épreuve intérieure, savoir la maladie d'Ézéchias, et l'épreuve secrète. Néanmoins, je vous parle un tout petit peu. Je fais un rappel de l'épreuve extérieure, parce que normalement cette conférence se dira après l'autre, logiquement. Deux mots suffisent à mettre un titre significatif à cette épreuve. Le premier c'est l'Assyrie et le second c'est la Babylonie. Deux termes qui reviennent souvent dans la parole de Dieu, qui disent beaucoup de choses. Par exemple, Ésaïe 5 nous dit « Ah, l'Assyrie, verge de ma colère !» Et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Ce sont des peuples, deux peuples dont Dieu va se servir pour châtier le peuple d'Israël. La Syrie était un peuple dominateur qui était glorieux, qui avait des monuments magnifiques que l'on a découverts toujours au XIXe siècle. Et là encore, la véracité de la parole de Dieu. On dit Ninive, une ville qui était immense, une capitale, il n'y a rien, il n'y a que du désert. Et des croyants ont dit, si Dieu dit qu'il y a Ninive, il y a Ninive. Bon, il creuse 15 mètres de dessous, il y a Ninive. Et on découvre le palais de Sennacherib. Et comme Dieu permet qu'en même temps on sache, comme je vous l'ai dit, décrypter les caractères cunéiformes, les murs se mettent à parler et dire que la parole de Dieu a raison. Par exemple ici, vous voyez le roi Jéhu sur ce qu'on appelle l'obélisque noir de Shalmaneser III, le roi Jéhu qui s'incline devant le roi d'Assyrie pour payer le tribut. Et oui, ça a bien existé tout cela. Alors pour montrer la grandeur de ce peuple, voilà une représentation. Vous avez ici donc le roi d'Assyrien en grand, et vous avez bien sûr les peuples à ses pieds qui supplient. Donc ça c'était les représentations, ça s'appelle la stèle d'Assaradon, fils de Sennacherib, elle fait 3,22 m de hauteur, peut-être elle est même au Louvre. Oui. Donc c'était un peuple qui adorait justement le soleil ou la lune, mais qui était très puissant et en même temps très cruel. Je ne ferai que résumer l'intervention de l'Assyrien en rapport, en relation avec Ézéchias. Il y a d'abord l'attaque de Juda dans le sens de l'attaque de la province, et Ézéchias va trembler parce que, vous voyez, il faudrait chaque fois expliquer un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Un roi d'Assyrie meurt, son successeur monte sur le trône. Tous les peuples que le premier avait assujettis se révoltent, ne payent plus le tribut, et le nouveau roi doit faire une grande campagne pour demander soit la soumission, soit de toute manière la soumission par la force ou la destruction. C'est ce qui se passe, et Ézéchias ne paye pas le tribut, alors le roi d'Assyrie arrive, et bon, alors qu'est-ce qu'il en est de Juda? C'est quoi Juda? Ben, c'est tout petit, d'accord, il commence à détruire quelques villes, il nous a dit qu'il détruit 40 villes de Juda, et puis il va arriver à Jérusalem. Alors, là Ézéchias flanche un peu. Il nous est dit qu'il dépouilla les portes du temple de l'Éternel et les donna au roi d'Assyrie en disant, bon écoute, je donne le tribut et tu passes à côté. Néanmoins, le roi d'Assyrie, image de Satan, de l'attaque de l'ennemi, ne se contente pas de cela. Il dit, oui, mais on veut non seulement cela, mais on veut les femmes, on veut tout le monde. Hein, nous, l'or c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Tu t'es révolté, tu n'as pas payé, il faut payer maintenant, d'une autre manière. Donc il envoie vers Jérusalem avec une double provocation, une première qui est orale. Je vous emmènerai dans un pays comme votre pays. Ézéchias mène deuil et envoie les anciens vers Ésaïe. Il leur dit, bon, je vais vous transporter. Écoutez, vous venez maintenant, ça sera aussi bien que chez vous, vous allez voir. Alors Ézéchias ne sait que faire, mais il envoie les anciens vers Ésaïe. Ésaïe répond de la part de Dieu, ainsi dit l'Éternel, ne crains pas. Puis le roi d'Assyrie se détourne un tout petit peu parce qu'il est attaqué par l'Égypte, et finalement il envoie son représentant avec une lettre, dans laquelle il est entre autres écrit « Que ton Dieu en qui tu te confies ne te trompe point !» Ézéchias déploya la lettre devant l'Éternel et pria. Et Ésaïe, encore une fois, répond de la part de Dieu « Ainsi dit l'Éternel, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de Sennacherib, au roi d'Assyrie, je l'ai entendu. » Je protégerai cette ville afin de la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et ainsi, un ange du Seigneur va détruire en une seule nuit 185 000 hommes de guerre. Et Sennacherib s'en retournera dans son pays, la honte au visage. La deuxième attaque extérieure est très différente. C'est le roi de Babylone, cette fois, qui était à l'époque assujetti au roi d'Assyrie, qui cherche des aides. Et il demande à, je passe rapidement, il s'appelait Merodach Baladan, et il demande à Ézéchias, alors, le prétexte, c'est qu'Ézéchias avait été malade. Il avait entendu qu'il était guéri. Alors imaginez-vous cela. Il habite à 1500 km, surtout à l'époque, et il envoie une ambassade pour dire, ben, j'ai entendu que tu étais guéri, je viens voir si tu vas bien. Pas vrai, ça. Ça, c'était pour avoir un prétexte. La vraie raison, et l'histoire le montre, c'est qu'il dit, est-ce que tu es d'accord pour te révolter contre le roi d'Assyrie? Je cherche à faire une coalition pour qu'on le renverse. Ézéchias, comme sont souvent les croyants, des fois un peu naïfs, Il dit, oh oui, mais écoute, toi et moi, on est les mêmes, oui, mais bien sûr, mais on pense à la même chose. Tu vois mes trésors, oui, mon ornement, oh, écoute, je te montre tout. Ha. Alors là, Isaïe va venir aussi, il va dire, dis, qu'est-ce que tu lui as montré au roi de Babylone? Il dit, je lui ai tout montré. Bien d'accord, eh bien, le jugement, c'est que tout cela ira à Babylone. Et nous trouvons une expression unique dans la parole de Dieu, c'est qu'il nous est dit que, à ce moment-là, Dieu l'abandonna afin qu'il connût ce qui était dans son propre cœur. Vous voyez, on connaît bien le psaume, on n'a pas plus le numéro. David dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Eh oui, parce qu'il vivait peut-être avant Ézéchias, mais sinon, s'il avait vécu après, il aurait pu le savoir. Il y avait un juste qui s'appelait Ézéchias et qui a été abandonné de Dieu. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est 2 Chroniques 32, verset 31. Mais cependant, lors de l'ambassade que les chefs de Babylone envoyèrent vers lui pour s'informer du miracle qui avait été opéré dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin qu'il connût tout ce qui était dans son cœur. Une introduction peut-être, j'y arrive de toute manière, à ce que je vais vous dire après avec l'épreuve intérieure. Nous allons vite dans les choses. Nous allons vite. On va dire, mais jamais Dieu n'abandonne personne. Pas vrai. Si on dit jamais Dieu n'abandonne définitivement un croyant, vrai. On dit, vous savez, Dieu, il pardonne toujours. Pas vrai. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne pardonne pas. Alors, nous aimons certains raccourcis qui sont pratiques. Mais nous devons quand même sonder la parole de Dieu pour savoir réellement ce qu'est Dieu. Ne pas faire un Dieu selon notre imagination, qui nous plaise, avec tous les versets, vous savez que comme un bouquet, hein, vous prenez les bonnes fleurs, les plus belles, et vous dites ça voilà. Et non, dans le champ, il y a aussi des fleurs cassées, il y en a de moins jolies, etc. Il y a tout. Oui. Donc, essayons d'être équilibrés. Donc, une leçon de l'ambassade de Babylone, eh bien, c'est que Dieu, des fois, peut abandonner un moment un croyant aux mains de Satan, exemple de Job, si vous voulez. Attention aux subtilités de la politique. Le brave Ézéchias était tout content qu'on envoie une ambassade depuis 1500 km pour savoir comment sa santé allait. Il n'y a plus que ça. Et les risques de la politique, eh bien, c'est-à-dire que, dans un premier temps, on peut des fois trouver des arrangements, mais des fois on est prisonnier. Et c'est un peu hors sujet, mais je dirais, faisons attention, avec les associations dont nous nous occupons d'une manière ou de l'autre, de ne pas être trop liés aux autorités politiques, parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Et j'en arrive, il est grand temps, à l'épreuve intérieure d'Ézéchias. Et là, nous allons lire la parole de Dieu à l'écran, ça revient au même. J'ai découpé le sujet en deux grands titres, les faits et les cris, et nous allons voir le détail maintenant. Un verset en Ésaïe 38, verset 1. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Voilà quelque chose qui est clair, net et précis, et nous lisons maintenant l'annonce de cette chose. En ce jour-là, Ézéchias fut malade à la mort, et Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit, vous avez la référence en haut, Ésaïe 38, verset 1, « Ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras pas. » Dans un premier temps, je vous présenterai toujours ce que la parole de Dieu lit, c'est pareil que si vous pouvez l'ouvrir et la lire. Et secondement, je pose toujours la question, quelle leçon pour nous? Quelle leçon ces versets peuvent-ils nous donner? La première leçon, c'est que l'épreuve peut arriver au milieu de la prospérité et de la fidélité. On a toujours, toujours, enfin du moins j'ai toujours tendance à penser que s'il arrive une bonne tuile, il y a un peu la notion éventuellement de punition ou de sioula. Vous allez au ski, vous cassez une jambe, et bien, tiens, s'il allait faire l'évangélisation à la place, il ne serait pas cassé la jambe. Oui. C'est une réaction primaire, humaine, bon, elle est comme ça. Non, l'épreuve peut arriver au milieu d'une totale fidélité et dans un temps de prospérité. Un éclair au milieu d'un ciel bleu, un coup de tonnerre au milieu d'un ciel bleu. Elle peut être soudaine et fatale, c'est le cas. Dieu reste souverain sur nos vies. Dieu est appelé souverain en acte 4, par exemple, et il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire. Il est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut et qu'il n'en rend pas compte. Réalisons que la vie est relativement courte et elle peut être beaucoup plus courte que prévu aussi. Et la question que nous pouvons nous poser, sommes-nous prêts à mourir, à rencontrer le Dieu souverain? À mesure qu'on prend de l'âge, on y pense un peu plus. Quand on est jeune, on y pense un peu moins. Et je pense à ma jeune fille à mes côtés, mais quand on lit encore les bonnes nouvelles d'il y a 100 ans, ah, qu'est-ce que c'est triste! dans chaque bonne nouvelle, vous avez la mort d'un enfant. Comme ça, hein. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on ne pouvait pas soigner. Et les enfants étaient préparés à la mort parce que, quand même, il n'y en avait peut-être que la moitié qui arrivait à l'âge adulte. Et de nos jours, on est bien soigné, donc on n'y pense plus. On dit, ben, quand on a 12 ou 13 ans, ben, on a toute la vie devant soi. Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Et la mort peut nous surprendre, Dieu peut nous rappeler à lui d'un moment à l'autre. Donc, l'importance d'une vie réglée et en règle avec Dieu. Quelle est la réaction d'Ézéchias? Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel, et il dit, hélas, Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Ézéchias versa beaucoup de larmes. Quelle leçon pour nous? Là, il se tourne contre la muraille. Si vous faites une explication de texte, vous dites, bon, quand même, il aurait pu se tourner, je ne sais pas, vers le sanctuaire, lever les yeux au ciel, faire ceci ou autre chose. Vous savez, vous faites une analyse tranquille dans votre fauteuil, et l'autre, il est en train d'être dans l'angoisse. Il vient de recevoir, par n'importe qui, de la part de Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, une sentence de mort, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Il n'y a pas une blague, hein. Tu vas mourir. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez 39 ans, c'est l'âge d'Ézéchias, ben, tout être humain normal dit pas, ben, alléluia, gloire à Dieu, on peut avoir un temps d'hésitation qui est parfaitement humain et parfaitement normal. La leçon pour nous, faisons attention, quand une personne traverse une grande épreuve, de ne pas juger sur des détails. Voyez, une personne est réellement harcelée, elle va réagir parce qu'elle devient hypersensible, elle va réagir bêtement à une question de verre d'eau, elle est trop forte, comme ça, je dis, oui, mais écoute, un croyant, tu sais, ça ne réagit pas comme ça, il faut toujours parler avec douceur. Non, taisez-vous, si vous ne savez pas ce qu'est l'épreuve, taisez-vous. Il faut supporter certaines réactions qui sont normales, logiques, parfaitement humaines, lorsqu'on est dans une grande épreuve. Et c'est une leçon qui nous est donnée ici. Il prie, bon, c'est une très bonne réaction, bien sûr. Autre leçon, c'est que Ézéchias dit à Dieu, écoute, quand même, tu sais le boulot que j'ai fait pour toi. Il dira, quel orgueilleux, on ne parle pas devant Dieu, ni devant les frères, ce qu'on a fait, quand même, un peu d'humilité. Ah, écoutez, laissez les gens être vrais. Et surtout, vrais devant Dieu. Vous n'avez donc jamais lu les psaumes? Vous n'avez donc jamais lu la parole, où un Jérémie va dire, ah, oh Dieu, tu m'as bien trompé, hein. Tu m'as bien trompé. Ah oui, il y a Dieu qui l'a trompé. Il a trompé, ben oui. Parce que, et même Jonas, regardez la réaction de Jonas, il dit, tu vas là-bas, tu vas leur dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Bon, on connaît les réticences qu'il a eues pour y aller. Finalement, il y va. Il crie, Ninive va être détruite dans 40 jours. Il se met sur sa montagne, il attend. 39, 40, 5, 4, 3, 2, 1, 0, rien. Une heure, deux, une journée, après, non, après la colère. Il dit, non, mais j'ai l'air de quoi? Non, mais franchement, j'ai l'air de quoi? J'ai passé dans tout Ninive en disant dans 40 jours, eh bien, Ninive est détruite. Et maintenant, Ninive n'est pas détruite. Vous croyez que c'est facile? Mettez-vous un tout petit peu à la place des autres. Hein? C'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Donc, quand Dieu lui dit, tu crois que tu as raison de t'irriter? Il dit, oui. Bon, Dieu dit, ben, c'est plus la peine de lui parler maintenant. Il n'est pas en état de recevoir, donc on laisse passer un peu de temps. On a le droit d'exprimer aussi nos émotions. Ézéchias versa beaucoup de larmes. Dieu ne met-il pas nos larmes dans ses vaisseaux? Vous savez, nous avons parfois cultivé une sorte de stoïcisme qui n'est pas biblique. Dans la parole de Dieu, pratiquement tous les hommes de Dieu pleurent. Ils pleurent. Et souvent en public. Le Seigneur a pleuré en public. Trois fois, il pleure dans la parole, le Seigneur Jésus. Au tombeau de Lazare, en voyant Jérusalem. Est-ce que vous avez pensé, je crois que je vous en avais entretenu, à cette chose extraordinaire? Lorsqu'il descend du mont des Oliviers vers Jérusalem, il voit la ville, donc lui pleure. Mais les autres, vous savez, ils crient, Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David, Hosanna. Ils mettent leurs vêtements, c'est un genre de gloire. Mais pendant qu'il est honoré, le maître sur son âne pleure. Jésus pleura. Si tu eusses connu en cette tienne journée les choses qui appartiennent à ta paix. Eh oui, le maître pleure publiquement. Et puis le troisième passage est dans Hébreux 5, ils ont offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. La réponse. La parole de l'Éternel vint à Ésaïe disant, « Va et dis à Ézéchias. » Et en jaune, vous avez les apports de deux rois du livre des rois. Je vous lis tout à la suite. « Il arriva qu'Ésaïe étant sorti et n'étant pas encore arrivé au milieu de la ville, que la parole de l'Éternel vint à lui disant, « Retourne et dis à Ézéchias, prince de mon peuple, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père. » Deux courtes phrases. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Quelle leçon pour nous ? Eh bien, parfois Dieu répond directement, parfois par un intermédiaire. Ici, c'est Ésaïe l'intermédiaire. Ici, la réponse est immédiate, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, elle est immédiate, pourquoi ? Parce que Ésaïe vient d'aller apporter son message, il retourne dans la ville, mais la vieille ville de Jérusalem, vous savez, ça fait 500 mètres de longueur, il a fait donc 250 mètres, et Dieu lui dit, demi-tour, tu vas dire l'inverse maintenant. Ah bon ? Il n'avait pas prévu. Et il dit rien. Il y va. Et nous devons en tirer une leçon. Il y a un livre que je n'ai jamais eu le temps de lire complètement, de Frère André, qui dit « Comme Dieu changea ses plans ». Ça, ça nous secoue un tout petit peu, parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre d'enseignement. Est-ce que Dieu change ses plans ? Ben oui, il change ses plans. Alors, avec une nuance. C'est-à-dire que Dieu change, peut changer les détails de son plan général. Et il ne change pas le plan général qui est établi dans la parole de Dieu. Voilà. Hein ? Donc, il y a le plan général... Et puis il y a les exceptions. Parce que là, vous êtes devant une alternative douloureuse. Soit Dieu s'est permis de faire une sale blague à Ésaïe en lui disant « Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. » C'est pas vrai, c'est pour rire. Et c'est difficile à accepter. Soit Dieu, sur la base de l'humiliation et de la prière d'Ézéchias, change son plan vis-à-vis d'Ézéchias. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Hein. Alors vous choisissez celle que vous voulez. Moi, j'ai choisi la seconde. Notre Dieu entend nos prières et voit notre attitude. Il n'est pas insensible à nos peines et à nos épreuves. La promesse. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi de l'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Quelle leçon pour nous ? La guérison divine est toujours possible. Dieu reste le même. Nous ne devons pas être ce que l'on appelle cessationnistes. Avec de bonnes raisons et une très bonne théologie, on va démontrer que les miracles existaient du temps des apôtres et que Dieu, maintenant, parce que nous l'avons décrété, ne peut plus rien faire. Nous avons un Dieu impuissant. Non. Dieu est le Tout-Puissant aujourd'hui comme ailleurs. Alors, vous allez dire, mais alors, s'il faisait ça hier, il va faire exactement aujourd'hui. Ça, c'est le côté, si vous voulez, de certains groupes chrétiens. Dieu guérissait tous les malades, aujourd'hui il guérit tous les malades. Eh bien non, pourquoi ? Parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu qui est le même, ou Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est pas condamné à faire toujours la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il est souverain, c'est clair. Dieu a son temps, il précise que c'est le troisième jour, il aurait pu faire le premier, il fait le troisième jour. Le chemin de la reconnaissance est montré, puisqu'il nous est dit, tu monteras à la maison de l'Éternel, 15 années de plus, eh bien c'est Dieu. Pourquoi 15 ? Pourquoi pas 14 ? Pourquoi pas 16 ? Je ne peux pas vous dire, c'est la souveraineté de Dieu, mais retenons la leçon que Dieu tient nos temps dans sa main et nos vies dans sa main. Nous avons par ce verset 6 d'Ésaïe 38 une confirmation de la simultanéité des épreuves, puisqu'il nous est dit « Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie ». Alors, c'est extraordinaire, parce que d'un côté, il y a l'attaque du roi d'Assyrie, et c'est à ce moment-là qu'il a son problème. On pourrait dire que ça tombait mal, franchement. Dieu pourrait programmer un peu nos épreuves, quand même, pour que ce soit acceptable, un temps de respiration, comme Job le souhaitait, laisse-moi reprendre mon souffle. Ceux qui sont passés par les grandes épreuves savent la valeur de tel verset. Seigneur, laisse-moi reprendre mon souffle. C'est un verset de la parole de Dieu dans la bouche de Job. Et 2 Rois 26 nous montre que la réponse va être en relation avec la gloire de Dieu. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur, on pourrait traduire à cause de ma gloire et à cause des promesses que j'ai faites à David, mon serviteur. Dieu honore sa personne en premier et ses paroles, ses promesses. Le remède qui est préconisé est particulier. Qu'on prenne une masse de figues et qu'on la mette comme emplâtre sur l'ulcère et il se rétablira. Quelles sont pour nous ? Les figues sont bonnes pour la santé, personne n'en doutera. Les moyens sont parfois étonnants et laissent les médecins perplexes. J'étais avec mon beau-père, ma belle-mère a donc un ulcère à la jambe, et j'ai dit, ma foi, je ne sais pas, il ne faudrait pas essayer les figues. C'est perplexe. Donc Dieu aurait pu guérir Ézéchias immédiatement, de façon concrète, mais ce ne sont pas toujours ses voies. Ésaü utilise de la part de Dieu un médicament naturel. Nous avons aussi la responsabilité de prendre des médicaments lorsque nous sommes malades, c'est des leçons pratiques. Les médicaments naturels, infusions, etc., ne sont pas dédaignés, mais attention aux dérives. Ça mériterait un long développement. Vous m'en faites grâce parce que je veux traiter mon sujet. Dieu m'a donné en plus un signe extraordinaire. Ézéchias avait dit, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je monterai à la maison de l'Éternel? Et ceci en sera le signe pour toi de par l'Éternel, car l'Éternel, dit Ésaïe, accomplira cette parole qu'il a prononcée. Voici, je ferai retourner en arrière de 10 degrés l'ombre des degrés qui est descendu sur le cadran de la case par le soleil. Et le soleil retournera sur le cadran de 10 degrés dont il était descendu. Quelle leçon pour nous. Un autre sujet, faut-il demander des signes, poser des toisons ou jeter le sort comme on le trouve dans l'Ancien Testament? C'est une bonne question. Est-ce que dans l'épreuve, est-ce qu'on fait pile ou face pour savoir si on prend un médicament ou si on doit se soigner ou pas? Ça mériterait d'être approfondi, mais vous avez peut-être des réunions d'assemblée et vous aurez le temps de le faire. Ici, il me semble que c'est le prophète Ésaïe qui a de la part de Dieu proposé ce signe aussi incroyable qu'extraordinaire. Parce que vous savez que c'est pas rien de faire arrêter le soleil dans le ciel. Et je pourrais vous expliquer ou vous donner quelques renseignements, si du moins ils sont exacts, mais certains d'entre vous avaient vu l'article il y a peut-être 20 ans, lorsque les Américains sont allés pour la première fois sur la Lune. Ils avaient fait un calcul, bien sûr, pour qu'ils arrivent bien sur la Lune, et s'étaient rendu compte qu'il manquait une journée sidérale. Ah! Ça, alors c'est bizarre, pourquoi il manque une journée? Alors ils ont fait des recherches, et un croyant s'est rappelé de ce passage. Non, le premier passage, c'est lui de Josué. Il nous a dit, le soleil resta dans le ciel, environ 24 heures, vous chercherez, environ une journée entière. Alors ils ont fait des recherches, et ils ont vu que ça représentait le décalage 23 heures 40 minutes. Puis ils ont dit, oui, mais manque 20 minutes. Et puis il y a quelqu'un qui connaissait Ézéchias. Alors ils ont cherché Ézéchias, ils ont regardé la correspondance des 10 degrés, égale 20 minutes. Pouf, journée sidérale à récupérer. Je l'ai lu, vrai, pas vrai, j'en sais rien. Maintenant, l'écrit d'Ézéchias. Ézéchias se trouve donc dans cette épreuve profonde, et ce n'est que dans le prophète Ésaïe, au chapitre 38-39, que nous allons savoir que Ézéchias a écrit. Il a écrit. Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, quand, ayant été malade, il fut rétabli de sa maladie. Et il exprime quels ont été ses sentiments lorsqu'il se trouvait dans le creux de l'épreuve. Tout d'abord, le découragement. Moi, je disais, alors rappelez-vous que c'est quelqu'un qui décrit une circonstance dans laquelle il est passé au moment où il n'y est plus. Important. Comme Paul, en Romains 7, qui décrit une sorte de naufrage au moment où il se retrouve sur la rive. Donc, je disais au méridien de mes jours, j'irai dans les portes du Sheol, je suis privé du reste de mes années. Je ne verrai pas Jah. Je vais aller avec les habitants du lieu où tout a cessé. Je ne contemplerai plus. Ma durée s'en est allée, elle est transportée loin, j'ai comme le tisserand coupé ma vie. Et surtout le dernier verset, du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Et la version Colombe et d'autres traductions disent, ça m'a beaucoup plu, tu m'auras achevé. Quelqu'un qui est dans une épreuve profonde, qui est dans le découragement, dit, bon, voilà, regardez les termes. C'est vite vu, privé, je ne verrai pas, je ne contemplerai pas, je vais être séparé. Et la conclusion qui est là, tu en auras fini avec moi, tu m'auras achevé. C'est fini. Plus d'espoir. Une question, pourquoi écrire? C'est drôle d'écrire quand on est dans une épreuve profonde. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, moi je l'ai expérimenté. Pourquoi écrire? Et en plus en vers, j'ai mis Lamentation de Jérémie. Vous savez que non seulement c'est en vers, mais que c'est alphabétique, c'est comme si vous êtes dans une grande épreuve, vous allez commencer à faire une poésie avec le premier verset par A, par B, par C, par E, V, W, X, Y, Z. Ah bon?
Oui, mais ça n'a plus la tête. Avec ce, la destruction de Jérusalem, c'était pas rien. Eh bien, il s'est donné le temps d'écrire en poésie, et encore, alphabétique. Cherchez, faites un peu des recherches, vous trouverez. Incroyable, et pourtant c'est comme ça. Excusez-moi de revenir encore à ma propre vie. J'ai eu des moments où j'étais tellement écrasé que je me suis mis à faire des vers. Heureusement qu'il y en a qui sont poètes sans avoir des épreuves. Mais enfin, c'est drôle. Eh bien, pourquoi? Parce que la poésie permet d'exprimer l'inexprimable. Vous pouvez faire passer par la poésie des choses que vous ne savez pas bien dire. Et j'aime, je vous avais déjà cité, cette poésie sans rapport avec le thème. Se trouvait un homme au bord du chemin, on voyait le ciel à travers ses mains. J'ai glissé ma main dans le creux de la sienne, j'ai tenu le ciel au creux de ma main. Ah ouais, bravo, c'est bien ça. Et oui, on arrive à communiquer par la poésie des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas que je m'écarte trop. L'écriture est une forme de verbalisation, d'extériorisation. Elle permet à la souffrance de s'exprimer, poser un problème et un premier pas vers la solution. Seuls les problèmes posés peuvent trouver une solution. Ici, c'est plutôt une rétrospective. Il a déjà eu la réponse, et c'est l'analyse de l'épreuve endurée. La substance donc de son découragement, c'est fini, tout est fini, il n'y a plus rien à espérer. La souffrance, regardez ces termes en Ésaïe 38, versets 13 à 15, « Il me brisait les os, il répète, du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi, je grommelais, je gémissais, mes yeux étaient consumés en regardant en haut. Seigneur, je suis opprimé, garantis-moi. » Et il parle de l'amertume de son âme. Leçon pratique, eh bien, la souffrance et le découragement peuvent être la part d'un croyant. Pas la peine de lui dire, si tu avais un peu plus de foi, ça ne t'arriverait pas. Ou de dire des beaux versets, tu sais, pour la foi c'est pareil. Marcher sur une mer agitée ou sur une mer calme, c'est pareil. Oui, mais tout le monde est bien d'accord, sauf quand vous êtes en train de vous noyer. Ézéchias est un homme, mais un homme qui regarde à Dieu, et regardez la belle expression, le cantique était bien inspiré. Mes yeux se sont consumés en regardant en haut, du sein de la faiblesse, du sein de la souffrance, nous regardons en haut, et c'est là qu'il faut regarder. Ézéchias prie. Mais, au bout d'un moment, il ne sait plus que dire, il ne sait plus que dire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il grommelle, il gémit. Et puis, à la fin, il dit, verset 15, « Que dirais-je? Parce que j'ai plus rien à dire. » Eh oui. Il est des moments où la prière, où les paroles se subliment en silence. Parce qu'on ne sait plus que dire. Et c'est qu'il a, finalement, accepte. Il m'a parlé. C'est lui qui l'a fait. J'ai mis le psaume 39 qui dit « J'ai mis ma main sur ma bouche car c'est toi qui l'a fait. » Il dépose les armes et il abandonne les revendications. Rappelons-nous du psaume 51 où David, après un péché, cette fois dit « Oh Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » La délivrance, eh bien, Dieu va intervenir dans la vie d'Ézéchias et lui va bien sûr être très heureux. Et voyez dans ce verset 16 d'Ésaïe 38 la triple répétition du verbe vivre. Par ces choses on vit. En toutes ces choses est la vie de mon esprit. Tu m'as rendu la santé, tu m'as fait vivre. Dans une scène de mort éclate, resplendit la vie. Quelle leçon pour nous? La vie donc apparaît au milieu d'une scène de mort. La réponse est considérée comme un acte d'amour de Dieu. Tu m'as aimé. La paix remplace l'amertume accumulée, la vraie paix du cœur est celle qu'on manifeste au sein de l'orage. Vous avez probablement lu cette histoire dans le calendrier Bonne Semence ou ailleurs, d'un concours de peinture. Et on avait demandé, essayer de symboliser la paix. Alors, il y avait quelqu'un qui avait fait un beau lac sans une ride, etc. Et puis finalement, celui qui a remporté le concours, c'est celui qui avait peint un orage terrible, avec une anfractuosité dans le rocher, et à l'intérieur, un petit oiseau qui couvait ses oisillons, vous voyez ? Et oui, la paix au sein de l'orage. Étonnante mention ici du pardon des péchés, sur laquelle je ne m'attarderai pas. La reconnaissance Car ce n'est pas le Sheol qui te louera, ni la mort qui te célébrera, dit Ézéchias. Ceux qui descendent dans la fosse ne s'attendent plus à ta vérité. Le vivant est celui qui te louera comme moi aujourd'hui. Le Père fera connaître au Fils ta vérité. L'Éternel a voulu me sauver, et nous jouerons de mes instruments à cordes tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Quelle leçon pour nous! L'espérance juive n'était pas l'espérance chrétienne. Si vous étudiez ce sujet, vous voyez que les croyants de l'Ancien Testament voulaient vivre sur la terre. Le Sheol, compliqué. C'était en tout cas un lieu où normalement on ne parlait pas, on n'entendait pas, on ne faisait rien. Et lui dit, mais là, son nom est sur la terre. Le vivant, c'est celui qui te loue dans le Sheol. Personne, il n'y a pas de louange, je réfléchis. Hein. Moi, tu me prends, d'accord, mais à louange, plus rien. Eh bien, c'est une vision vétéro-testamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, déloger et être avec Christ. C'est de beaucoup mieux. Oui. L'espérance chrétienne est différente. La louange tous les jours, je lui dis, la louange avec des instruments de musique, pourquoi pas, la louange dans la présence de Dieu, dans la maison même de l'Éternel. Alors, si nous récapitulons la maladie d'Ézéchias, les faits, l'annonce, reconnaissons qu'elle était brutale. La réaction, elle est vive. La réponse divine, elle est rapide. La promesse, elle est certaine. Le remède, il est étonnant. Le signe, il est extraordinaire. Quant à l'écrit d'Ézéchias, le découragement qui est décrit est réel. La souffrance, elle est intense. La délivrance, elle est totale. Et la reconnaissance, elle est sincère. Et je vous propose, pour terminer cette première partie, de vous lever et de chanter ce cantique que je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Ce sera peut-être un peu long, on chantera le second, simplement. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. La seconde partie, ce que vous attendiez bien sûr dès le début, l'épreuve secrète d'Ézéchias. Trois chapitres, une épreuve difficile, une épreuve très difficile, et troisièmement, ce qu'Ézéchias n'a pas su. Commençons donc par le premier point, une épreuve difficile. Lisons dans Deux Rois, chapitre 21, verset 1er. Manassé, fils d'Ézéchias, était âgé de 12 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 55 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Hephzibah. Il faut que nous commencions la vie de Manassé pour savoir qu'Ézéchias était marié. Il ne nous en est rien dit pendant les 14 chapitres qui parlent de lui. Donc Ézéchias était marié, Manassé, son fils, est né alors qu'il avait 42 ans. D'autre part, il n'est jamais parlé d'autre fils d'Ézéchias. Conclusion, jusque-là, le couple était probablement stérile. Conclusion assez logique. Quelle leçon pour nous? Cette épreuve n'est donc mentionnée qu'en filigrane. Il faut étudier le sujet pour s'en rendre compte. Elle était quand même connue du grand public, parce que quand le roi et la reine n'ont pas d'enfants, tout le monde le sait, obligatoirement. Mais par contre, pour nous, lecteurs du XXIe siècle, elle n'est discernée que si on prend le temps de réfléchir. Conclusion, chacun a plus ou moins une épreuve secrète. Ce peut être un mariage difficile, un célibat pénible, une stérilité éprouvante, ou inversement tellement d'enfants qu'on ne peut plus faire face, qu'on ne peut plus assumer. Ça existe aussi. Et nous entrons quelque peu dans la souffrance qu'a pu être celle d'Ézéchias, se rappelant ce qu'il était écrit dans Job 18. La lumière des méchants sera éteinte, et la flamme de son feu ne luira pas. Il n'a pas d'enfants, ni de postérité parmi son peuple. Personne qui lui survive dans les lieux de son séjour. Jérémie n'était pas encore né, mais la pensée peut se trouver ailleurs aussi. Ainsi dit l'Éternel en Jérémie 33, 20, « Quand vous romprez mon alliance, Alors aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, de sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône. Manassé est né après l'attaque de Sennachérib et après la sentence de mort prononcée par Dieu lui-même. Il est né 3 ans après cette période. Quelle leçon pour nous ? Eh bien, il existe dans la parole de Dieu des versets qui nous font mal et qui nous culpabilisent. Il faudrait les interpréter plutôt à la lumière de l'amour de Dieu manifesté dans le don de Jésus-Christ. Romains 8, nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais nous savons que toutes choses concourent ou travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son propos. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à vivre, il n'est pas toujours facile de s'en emparer. Mourir sans enfant, sans héritier, sans postérité, est une épreuve difficile que ne mesurent que ceux qui y passent. Vous savez, d'une façon générale, on n'entre pas ou peu dans l'épreuve de l'autre. Un frère me disait récemment, il disait, oui, mais vous, Pierre, regardez, vous pouvez donner vos biens, vous avez une si nombreuse famille, mais moi, et j'essaierai de ne pas donner trop de précisions, après nous, il n'y a plus personne.
Eh oui, c'est vrai.
Ça s'éteint. Donc, ce sont des épreuves difficiles. Quelqu'un dira, et comment vous savez qu'il n'a pas eu d'enfant, alors que même il est écrit en Ésaïe 39, 7, et c'est Ésaïe qui parle, « On prendra de tes fils qui sortiront de toi et que tu auras engendré, ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Vous voyez bien qu'il a eu des fils. C'est Ésaïe qui l'a dit, Ésaïe le prophète. Donc je désire établir le fait, autant que je le peux, argument en faveur de l'absence d'enfants mâles. Eh bien, pendant 20 ans de mariage environ, il n'est parlé d'aucun enfant. C'est argument numéro 1. Argument numéro 2, pourquoi mettre sur le trône un enfant de 12 ans s'il avait des grands frères adultes, puisque Manassé a remplacé Ézéchias alors qu'il n'avait que 12 ans. Donc, effectivement, au moment où on est, il n'avait pas d'enfant, puisque c'est 3 ans après qu'il aura Manassé. Ça semble tout à fait logique. Et il y a un argument qui sort de la terre aussi 2700 ans après, c'est le prisme de Taylor, qu'on appelle aussi l'écrit de Sennachérib. Parce que c'est extraordinaire, tout ce que nous lisons dans la parole, on peut le lire, écrit d'une façon différente, par un roi assyrien. Actuellement, on peut savoir ce qui est écrit, même je pourrais vous le lire, puisque j'ai le texte ici. Ce prisme a été trouvé en 1830 à Ninive. Il mesure 37,5 cm de hauteur, et il a 6 faces. Donc, conclusion, ce verset d'Ésaïe 39, verset 7, ne me semble pas dire qu'Ézéchias a eu des fils. L'expression « tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendré » fait, me semble-t-il, allusion aux descendants d'Ézéchias, et particulièrement au fils de Josias, qui était le petit-fils de Manassé, donc l'arrière-petit-fils d'Ézéchias. Deuxième point, une épreuve très difficile. Ah, et j'ai sous-titré « Quand la réponse à la prière est le commencement d'une nouvelle épreuve ». Essayons de nous replacer dans le contexte. Dieu décide de reprendre à lui son serviteur pieux. Ézéchias supplie l'Éternel de ne pas le faire mourir à 39 ans. Dieu accepte et lui ajoute 15 années de vie. C'est pendant ces années ajoutées que Manassé naît. Donc la stérilité arrêtée, un fils mâle arrivé, la postérité assumée, c'est la joie au foyer. Parce que nous devons quand même bien nous mettre dans le contexte de l'époque. D'une part, avoir un enfant donner la possibilité, si on était de la famille de Judas, ce qui était le cas, de donner naissance à l'ancêtre du Messie, et lui étant roi, c'était dramatique de ne pas avoir un enfant mâle dans la succession, puisque la lignée de David, du moins par lui, s'arrêtait. Et quand il est attaqué par Sennachérib, il est rongé par une autre épreuve, qui dit, mais en plus, si Sennachérib vient, et s'il me tue, il n'y a pas d'héritier. Tout s'arrête là. Où sont les promesses de Dieu ? Ouais. Et ainsi, dans nos propres vies, il y a certaines épreuves qui prennent une dimension différente, plus importante, à cause de l'épreuve secrète que nous avons à l'intérieur, et que les gens ne connaissent pas. Donc là, ils se réjouissent, tout est bien. Mais rappelons-nous que sur une terre marquée par la chute et le péché, la joie est souvent de courte durée. La terre reste globalement et moralement un désert, un lieu difficile, un lieu d'épreuve, dont nous ne comprenons pas toujours la nécessité. mais le chapitre 8 du Deutéronome nous donne quand même une explication. Dieu dit, si je vous ai éprouvé pendant ces 40 ans dans le désert, c'est pour connaître ce qui était dans ton cœur. Et l'épreuve nous permet justement de mieux nous connaître par nos réactions. Et puis finalement, il est dit, pour te faire du bien à la fin. Ça, c'est le propos final de Dieu. J'ai marqué aussi, nous ne connaissons pas nos lendemains. Tant mieux. Et cela touche profondément, en tout cas, mon cœur, lorsqu'on pense à notre Seigneur Jésus-Christ, homme de 33 ans à ce moment-là, qui va au-devant de la mort de Golgotha en sachant tout. Et vous trouvez cette phrase extraordinaire en Jean 18, verset 4, je crois. Jésus, sachant toutes les choses qui allaient lui arriver, s'avança. Et c'est profond. Il ne passe pas à côté de l'épreuve. Il sait tout à l'avance et il marche. J'aime bien cette expression de la poésie Gethsémané. Enfin, l'amour triomphe et marche au sacrifice. Plus de jours, ouais, c'est souvent plus d'épreuves. Psaume 27.1, ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Et Salomon disait lui-même dans l'Ecclésiaste, j'ai haï le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil, parce que je dois le laisser à un homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera un sage ou un sot, il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé, dans lequel j'ai été sage sous le soleil. Cela aussi est vanité. Le beau petit bébé Manassé va se transformer rapidement en un monstre. Quelqu'un dira, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère. Non, le terme est faible, excusez-moi. Ézéchias a donné naissance au plus abominable des rois. Au plus abominable des rois. Et Proverbe 17-21, ici cité, nous dit, celui qui engendre un sot l'engendre pour son chagrin, et le père d'un homme vil ne se réjouira pas. Quelle leçon pour nous. La fin d'une épreuve, là c'était la fin de la maladie, et parfois le commencement d'une nouvelle épreuve, plus difficile. Et j'ai mis, c'est le cours supérieur à l'école de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours, et pas souvent, les voies de Dieu pour nous. Mais essayons de nous appuyer sur ce passage de Romains 8, déjà cité. Revenons à Eftiba, la mère de Manassé. Et j'ai marqué comme titre « Discrète ou absente ?» Son nom signifie « Mon délice est en elle ». Et c'est même le nom symbolique de Sion. On ne parle jamais d'elle pendant toute la vie d'Ézéchias. Alors elle était discrète ou absente? Elle n'est citée que pour avoir donné naissance à Manassé, le fils insensé, chagrin pour son père et amertume pour sa mère. Manassé, elle nomme son fils oubli, et il oubliera ses enseignements. Quelle leçon pour nous. Notre nom, partie de notre identité, ne détermine pas systématiquement ce que nous sommes ou ce que nous serons. Fut-elle le délice de ses parents, de son mari ou de Dieu, nous n'en savons rien. La discrétion, certes, est une qualité, mais l'absence est un défaut. Est-ce que Manassé a une mère absente? A-t-elle instruit Manassé dans les voies de l'Éternel pendant que son mari occupait la lourde charge du royaume? C'est une interrogation. Mais posons-nous la question. Sommes-nous des parents discrets ou absents? J'avais dit un monstre, il suffit de lire la parole pour en être convaincu. Manassé était âgé de 12 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 55 ans à Jérusalem, il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits, il éleva des autels à Baal, fit une Achère, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, c'est dans Jérusalem que je mettrai mon nom. Et il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Et là, vous vous cramponnez bien. Et il fit passer son fils par le feu. C'est-à-dire, il offrit un holocauste à Moloch. et il pronostiquait des enchantements, et il établit des évocateurs d'esprit et des diseurs de bonne aventure. Il fit outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère. Un monstre est plus qu'un monstre. Aussi idolâtre que son grand-père Akaz, il va faire la même chose. L'image de la chair, c'est-à-dire la statue qu'il avait faite, il la plaça dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. Écoutez ces termes. C'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël que je mettrai mon nom à toujours. Et en Rouen 3 précise, j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et quand les yeux de Dieu regardaient le temple, à l'intérieur, il y avait une idole. Et Dieu va dire, ils n'écoutèrent point. Et Manassé fiérait le peuple de Juda en les induisant à faire le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. Les dieux de Canaan deviennent les dieux d'Israël. Nous avons vu tout à l'heure ce passage dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 13. Les fils d'Israël provoquèrent l'Éternel et abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astaroth. Eh bien, Manassé, nous venons de le lire, fit exactement la même chose. N'oublions pas que d'un côté nous étions environ en 1500 avant Jésus-Christ, ou 1400, et là nous sommes 700. 700 ans après, retour à la case départ. Mieux que cela, il nous est dit qu'il fit errer les fils d'Israël en les induisant à faire le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant Dieu. Quand un croyant s'habilite, il descend souvent plus bas que les gens du monde. Voilà le point où se trouvait Manassé. Alors j'ai mis un enfant inconverti. J'espère que personne ne me dira à quoi vous voyez qu'il était inconverti. Voyons maintenant plutôt l'histoire d'un enfant pieux, Samuel. J'ai cherché dans la parole quelques expressions qui le concernent. Enfant désiré et demandé dans la prière, 1 Samuel 1, 10, 27. Enfant donné à l'Éternel avant même sa naissance, consacré, 1 Samuel 1, 11. Enfant prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, 1 Samuel 1, 28. Le jeune garçon allait grandissant, agréable à l'Éternel et aux hommes, 1 Samuel 2, 26. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel, 1 Samuel 3, 1. Son message, attaché fermement vos cœurs à l'Éternel, disait-il en 1 Samuel 7, verset 3. Quelle leçon pour nous. Nous ne pouvons gérer que notre responsabilité, mais nous devons y faire face sans démissionner. Dieu sait pour qui nous élevons nos enfants. Et ici, en tant que grand-père de 12 petits-enfants, je peux quand même pouvoir dire, je pense pouvoir dire que il faut réellement que nous nous mettions devant Dieu pour savoir quels sont nos objectifs de parents pour nos enfants. Je puis vous rendre témoignage, parce que Dieu en est le témoin, que nous n'avons jamais demandé ni la prospérité, ni la gloire, ni les hautes études, ni les hautes situations. Nous avons toujours demandé, et avant leur naissance, que nos enfants soient à lui et le servent. Et avec reconnaissance, nous pouvons dire que Dieu nous a exaucés. Il a même donné des choses en plus. Mais il est important, ça c'est le secret des cœurs devant Dieu. Voilà, je ne vais pas ni juger ni autre, je peux vous dire que nous avons fait cela. Parce que c'est vrai, c'est tout. Dieu sait pour qui nous élevons nos enfants. Dieu seul peut toucher un cœur à salut, les conversions sont une grâce. Un enfant inconverti est une épreuve très douloureuse pour des parents croyants. Très très douloureuse. Ézéchias n'a pas connu tout, pourra dire quelqu'un. Ce que son fils a fait, entre autres, tout ce que son fils a fait après sa mort. Vous ne pouvez pas savoir tout ça, puisqu'il était déjà mort. Ah oui. Je ne vois donc pas en quoi cela a pu être une épreuve pour lui. Réfléchissons un tout petit peu. Lorsque Ézéchias devient roi, il a 25 ans. Et en quelques mois, il purifie le temple, rétablit le service, la Pâque et les dîmes. Et en conclusion logique, nous disons, s'il a pu faire une telle réforme en si peu de temps, la première année de son règne, c'est parce que c'était un croyant qui souffrait sous la domination de son père et qui, dès le moment où il fut libéré, montra ce qu'il avait à l'intérieur en faisant une réforme pour Dieu. Ouais, mais pour Manassé, c'est pareil. Lorsque Manassé devient roi, à 12 ans, en quelques mois, il souille le temple, abolit le service, instaure le culte des idoles, en langage clair, fait exactement le contraire de ce que son père avait fait. Vous n'allez pas me dire qu'il n'était pas en révolte à l'intérieur, celui-là. Et là, on ne pouvait pas dire que c'était parce qu'il avait manqué d'affection quand il était petit, ou que c'était parce qu'il avait eu un mauvais exemple. Non, 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 non. Il avait eu un bon exemple, et de lui-même, eh bien, il faisait des choses qui étaient contraires à ce que son père avait fait, et contraires surtout à ce que Dieu pensait. Alors, quelle leçon pour nous ? Un enfant montre très tôt ses prédispositions, ses qualités, ses défauts et ses tendances. Une bonne éducation selon la parole de Dieu et l'apprentissage de l'obéissance sont indispensables. Proverbes chapitre 20, verset 11 nous dit « Même un jeune garçon se fait connaître par ses actions, si sa conduite est pure et si elle est droite. » Alors là, vous savez, si des fois on donnait l'enregistrement à quelqu'un qu'il ne faut pas, pour ne pas aller en prison, je vais être adroit. Salomon dit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 13, « Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. » Là, je ne risque pas l'amende. Alors, rien ne pourra jamais remplacer une authentique conversion. On peut mettre un vernis, mais il faut une conversion, et la conversion est un acte dans lequel l'homme a une responsabilité, mais qui est finalement l'application de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Troisième point, ce qu'Ézéchias n'a pas su. Qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas su ? Eh bien, quand Manassé fut dans la détresse, des dizaines d'années après, transporté à Babylone par le roi d'Assyrie, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères et le pria. 2 Chroniques 33, verset 12. J'ai intitulé cette diapositive « Le retour ou la conversion ». Dieu se laissa fléchir, nous est-il dit par lui, écouta sa supplication et le ramena à Jérusalem dans son royaume. « Seigneur, nous dit le cantique 71, ta grâce illimitée, si pure et si douce pour moi, fait que mon âme est transportée chaque fois que je pense à toi. » Dieu se laissa fléchir par lui, parce qu'il s'humilia beaucoup et écouta sa supplication. Et après cela, alors que va faire Manassé ? Alors cette fois, il bâtit, il ôte les idoles du temple, il met en état l'autel de l'Éternel, et il sacrifie des sacrifices de prospérité, d'action de grâce. Il commanda à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. En langage clair, il fait exactement l'inverse de ce qu'il avait fait avant. Et la conversion, c'est ça. Et pour les plus jeunes, on comprend très bien l'image de la conversion avec le vocabulaire pour les skieurs. Une conversion, on est à l'arrêt, on tourne les skis et on part de l'autre côté. C'est ça une conversion. Hein ? Un demi-tour complet. Alors j'ai mis, en pensant à Luc 15, « Joie au ciel ». Oui, ce récit nous fait penser au récit du fils prodigue de Luc 15. Et on peut bien dire, en ce qui concerne Manassé, comme le père du fils prodigue le dit, « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique, mais il est si beau. « Joie au ciel ». Écoutez, écoutez ces cantiques, le prodigue est de retour. Dehors sur la route, son père l'attend. C'est lui. Plus de doute, voici mon enfant, plein de tendresse. Il court, il presse sur son cœur le fils repentant, voix au ciel. Écoutez, écoutez ces cantiques. Le prodigue est de retour. Quelle leçon pour nous. Si Manassé a pu revenir, tout fils prodigue peut revenir à Dieu. Parce qu'aucun des hommes n'a fait ce que Manassé a fait. Si Dieu s'est laissé fléchir par Manassé, Dieu ne méprisera jamais un cœur brisé et humilié qui revient à lui. Ézéchias n'a pas connu la conversion de son fils. Elle est intervenue près de 50 ans après sa mort. Et l'exhortation est là, que les parents d'enfants inconvertis continuent de prier et d'espérer. Ce n'est que dans la gloire qu'Ézéchias rencontrera Manassé. Son fils. L'épreuve secrète, une épreuve difficile. rester célibataire ou être marié sans enfant peut être une situation difficile à vivre, et pour ne pas rajouter, être marié tout court peut être une épreuve difficile. Une épreuve très difficile, n'avoir qu'un enfant et un enfant inconverti, est une douleur continuelle pour des parents. Ce qu'Ézéchias n'a pas su, quand on lit l'histoire de Manassé, il n'a pas su la conversion de son fils, on doit conclure qu'il n'y a pas de cas désespéré. Et il est temps d'arriver aux conclusions. Qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Ézéchias? Et là, je fais la synthèse globale. Ézéchias a été éprouvé de quatre manières. Tout d'abord, une attaque extérieure, l'opposition brutale. Ça nous fait penser à la parole de Dieu dans le livre de Job qu'il adresse à Satan. Touche assez bien, je te permets de toucher assez bien. Et là, on lui prend tout, on a vu qu'il a dépouillé les portes du temple. La seconde épreuve, la maladie, touche à son corps et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Dit Satan à Dieu dans le livre de Job. Troisième épreuve, la tentation, les alliances mondaines. Et on peut comparer cela à l'épreuve du Seigneur, le monde et toute sa gloire. Mais pourquoi vous faites pourquoi? Avec nous, vous aurez ceci, vous aurez un bon salaire, vous aurez de la gloire, vous aurez ceci et toutes sortes d'avantages. Le monde et toute sa gloire. Et la quatrième épreuve concerne la famille, pas d'enfant, et un enfant indocile, certainement, qui a donné du fil à retordre à ses parents et pas beaucoup de joie. On trouve dans le prisme de Taylor, que je vous ai montré tout à l'heure, une phrase de Sennacherib: j'ai enfermé Ézéchias dans une cage. On peut très bien voir dans cette attaque une attaque de l'ennemi contre un croyant. Et regardez l'ensemble des épreuves. L'épreuve secrète, c'est l'écharde. C'est sa femme qui est stérile, qui ne donne pas d'enfant mâle, pas de succession pour lui. Et puis, vous avez la maladie qui vient l'accabler en plus. Et c'est juste au moment où arrive le roi de Babylone qui lui dit: tu ne voudrais pas faire alliance avec moi? Et j'ai représenté cette attaque comme celle du serpent sifflant. Et puis, Sennacherib qui attaque avec toute son armée et ses 185 000 hommes de guerre, eh bien, c'est l'attaque du lion rugissant. Et alors, cette expression de Sennacherib, retrouvée en 1830, datant de 2700 ans, prend un relief particulier. Je l'ai enfermé dans une cage. Il nous arrive, nous aussi, d'être comme enfermé dans une cage. Quelle application pour nous? Quant à l'attaque extérieure, eh bien, il est vain de composer avec l'ennemi. Comprenons que l'ennemi ne veut pas simplement prendre nos biens, il nous veut nous-mêmes. Réalisons qu'il n'y a qu'une guerre, une vraie guerre, celle de Satan contre Dieu. Et que pour nous, voyants, nous savons que la fin, eh bien, c'est que l'ennemi sera consumé par le souffle de la bouche de Dieu. Dieu sera le vainqueur. Quant à la maladie, elle peut nous atteindre d'un moment à l'autre. On peut être en bonne santé ce soir et avoir une maladie qui se révèle demain. Retenons que les épreuves ne sont pas liées systématiquement à des péchés. Elles peuvent l'être, mais elles ne sont pas toujours, et pas souvent peut-être même. On doit être sensible à l'épreuve. La juste prière de la foi n'exclut pas de légitimes pleurs. Essayons d'être vrais. Il y a une difficulté pratique avec cela. Quand vous venez à l'Assemblée, comment ça va? Le code de politesse et de savoir-vivre français dit qu'en public, on va toujours bien. Ça va très bien, merci. Peut-être qu'on peut en lâcher un peu plus avec les frères et les sœurs, à condition qu'ils ne cherchent pas à tout savoir. Dire non, ça va, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que c'est, oh, je préfère le garder pour moi, on va prier pour toi. Faisons attention, on peut se donner une apparence. Je crois qu'on peut être, on doit être vrai. Et de notre côté, très délicat. Alors comment ça s'est passé exactement? Non. Savoir un sujet d'épreuve suffit. Le détail, Dieu le connaît, on n'a pas besoin de connaître les détails. Quatrième point, on peut extérioriser son désarroi par des paroles, pas forcément justes ou objectives, mais qui sont l'expression d'une authentique souffrance. Vous savez pourquoi j'ai mis, pourquoi pas forcément juste et objective? Parce que cette parole, je ne sais pas si je l'ai notée ici, parole de Job, vous la retrouverez sans peine, est assez extraordinaire. Vous connaissez le conflit entre Job et ses compagnons, qui chaque fois le prennent au mot, rebondissent sur ce qu'il a dit. Et à un moment, Job dit, Retenez ça, c'est important. Les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui est désespéré, ne lui faites pas des remarques sur le manque de concordance de temps dans sa phrase. Ne lui faites pas, c'est pas ça. Vous êtes à côté. L'amour voit autre chose. Les paroles d'un désespéré ne sont faites que pour le vent. C'est-à-dire, il essaie d'évacuer de façon maladroite sa souffrance. Laissez-le s'exprimer. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à écouter, à aimer et à prier. Ézéchias est confronté à une apparente injustice. Je suis privé du reste de mes années. Il pense quitter le réel pour le néant alors qu'il aurait simplement quitté le temporel pour l'éternel. L'apparence des choses de la terre pour la réalité des choses du ciel. Il n'a qu'un désir, sortir de l'épreuve, échapper à la sentence de mort, rester dans la sphère connue des vivants. Et c'est le combat que nous pouvons rencontrer. Quant aux associations mondaines, thème que je n'ai pas traité, les gens du monde sont parfois très sympathiques, mais leurs alliances sont toujours intéressées. On ne peut pas bien s'attendre de la part d'une personne inconvertie à des actes totalement désintéressés. Il y a des gens qui sont remarquables en moralité dans les personnes inconverties. Mais de notre côté, regardons par exemple les œuvres humanitaires. Les œuvres humanitaires, il y a de grandes œuvres humanitaires qui au début étaient chrétiennes, qui maintenant deviennent parfaitement laïques, et on y voit un grand dévouement. Néanmoins, il y a quelque part une reconnaissance, une notoriété. Il est difficile, même pour nous chrétiens, d'agir sans intéressement. Très difficile, très difficile. Et un inconverti, je crois que c'est impossible. Agir gratuitement. Vous savez, ça prend quelque part un retour, hein, de vos... Vous vous attendez quelque part à un retour. Et si vous n'avez pas de retour, bon, allez, quand même, et tout. Et dit, oui, mais si tu l'as fait totalement de façon désintéressée, tu ne dois pas t'attendre à un retour. Eh bien oui, vous, peut-être, vous ne vous attendez pas à un retour. Moi, souvent, je m'attends. Quand on a beaucoup donné pour une personne, et même Dieu dit, qu'est-ce que c'est que je n'avais pas fait pour ma vigne? À la place, j'ai fait ceci, cela et autre chose, Ésaïe 6, et je m'attendais à porter quelques frères. Et il attendait un retour. Normal, normal. Donc, faisons attention quand même aux associations mondaines. N'oublions pas la déclaration divine, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de sa chair son bras. Comme pour Ézéchias, il se peut que Dieu nous abandonne pour un temps à notre aveuglement. Les conséquences de nos orientations sont pourtant données. Le tribut que tes pères ont payé au roi d'Assyrie, tes descendants le paieront un jour au roi de Babylone. Plus que cela, il te prendra tout et tes enfants seront serviteurs à Babylone. Attention aux alliances mondaines. Rappelons 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules. Dans cette association, le cœur d'Ézéchias s'éleva et devint même égoïste. Il dit après moi le déluge. Quand Ésaïe lui annonce le jugement, il dit, ah bon, ça ne va pas se passer de mon temps. Ah, merci. Ça va tomber sur les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et maintenant, les épreuves secrètes. Il est dans chacune de nos vies des épreuves secrètes, des souffrances cachées. Dans le voyage de la vie, d'autres épreuves arrivent aussi. Elles s'additionnent aux épreuves secrètes. Ceux qui s'approchent pour consoler ne connaissent souvent que l'extérieur des choses, ce que tout le monde voit. Les épreuves dans le couple ou dans la famille sont généralement plus douloureuses que les autres. La stérilité d'un couple n'est pas un jugement, mais une épreuve. Un enfant inconverti ne dépend pas directement de la responsabilité des parents, puisqu'un enfant converti est une grâce. Ce qui ne veut pas dire que les parents n'aient pas la responsabilité de semer. Mais celui qui va donner l'accroissement, c'est Dieu. Il est des choses que nous obtenons, des fois par notre insistance dans la prière, mais qui ne sont finalement pas bonnes pour nous. Ézéchias a dit non. Mourir à 39 ans, non, Seigneur, s'il te plaît. Dieu lui donne 15 années de vie. Pendant les 15 années de vie, il donne naissance à un monstre qui va le faire souffrir jusqu'à la fin de ses jours et qui va emmener le peuple à la débauche. Dieu avait dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Donc nous et l'épreuve, eh bien, nous pouvons aussi être attaqués extérieurement. La persécution est toujours possible, y compris dans nos pays, y compris bientôt. La maladie, supporter l'épreuve avec patience. De temps en temps, si vous passez l'expression, on en a marre. C'est humain. Supporter l'épreuve avec patience. La tentation du joug mal assorti avec les incrédules, elle intervient à différents niveaux, au niveau du mariage, au niveau de diverses associations. Veillons. Et puis, on peut avoir cette épreuve secrète qui peut être dans la famille, dans le travail ou dans l'église. Des personnes qui arrivent au découragement total. Des personnes qui mettent fin à leur jour parce que c'était trop lourd. Il y a une semaine, une institutrice, vous avez dû l'entendre, qui était une bonne institutrice, s'est suicidée parce qu'elle avait reçu des lettres injustes. Et j'ai entendu le témoignage de son aide qui disait c'est une femme remarquable, sensible. Et l'épreuve est trop lourde. Elle est trop lourde. Non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ouais. Et donc, il peut y avoir ces épreuves qu'on ne connaît pas, et des gens qui étaient autour n'ont pas mesuré, n'ont pas vu qu'elle était au bout du rouleau. Elle continuait son travail, et peut-être de temps en temps, elle qui s'énervait jamais devenait irritable. Elle dit, mais ne sois pas irritable comme ça. Allez, on en rajoute une couche, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Les buts de l'épreuve, l'apôtre Pierre nous en parle. Que la grâce et la paix, nous dit-il dans son épître, vous soient multipliées. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 8. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, infléchissable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier jour. En quoi, écoutez bien, à partir de là, c'est important. En quoi vous vous réjouissez du salut, tout en étant affligés, maintenant, pour un peu de temps, par diverses tentations ou épreuves, si cela est nécessaire. Et dans quel but? Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à louange, et à gloire, et à honneur, dans la révélation de Jésus-Christ. Voilà un des buts de l'épreuve. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'épreuve de ce qu'il y a de plus précieux sur terre, savoir mort. Dieu nous éprouve, parce que nous sommes des fils, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, 12e. Alors, une précieuse certitude, je l'ai citée, c'est Romains 8. S'il y a des tas de choses que nous ne savons pas ou que nous ne comprenons pas, eh bien, Romains 8, 28 nous dit, mais nous savons. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Mettre cela en relation avec le propos, le dessein, le plan de Dieu pour nous, est quelque chose de grand. Ça ne résout pas tout. J'essaye de mettre en pratique des fois, hein. Et je dis, bon, apparemment, tout travaille pour mon bien. C'est quand même drôle de sentir d'avoir un autre vécu. On dirait que tout travaille contre nous. Et la foi dit, non, le Seigneur étant souverain, ça travaille pour nous. Et une petite voix dit, oui, d'accord, mais ça semble travailler contre nous quand même. On est des êtres humains. Quelques promesses. Dieu est notre refuge, notre force. Un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est ce que le psalmiste disait. Des fois, on trouve que c'est pas facile. Il nous semble que le ciel peut être de plomb. Pourtant, les promesses sont là. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. À celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 50, 23. Et ce verset intéressant de Jean 11, c'est Jésus qui répond à Marthe, je pense. Hein. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, si vous voulez, ça nous interpelle. Nous avons un nouvel élément qui est celui de la foi. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Souvent, on voudrait voir la manifestation de la gloire de Dieu et croire après. Et non, la foi c'est cela. On croit, et à ce moment-là, on voit la gloire de Dieu. Alors, comme le père de l'épileptique, il nous arrive de dire, et je crois que c'est juste, je crois Seigneur, mais s'il te plaît, viens en aide à mon incrédulité. Je voudrais terminer en vous donnant deux perles, deux courts versets, deux expressions qui m'ont aidé. La première, moi, je suis Dieu, ton Dieu. Psaume 50, verset 7. Et la seconde, Jésus est Seigneur. Philippiens 2, verset 11. Deux perles. deux versets, deux expressions que l'on peut serrer sur son cœur. Deux caractéristiques d'une véritable épreuve. Il y a le souvenir d'une telle souffrance qu'on ne voudrait surtout pas y repasser. Deuxièmement, le résultat est lié à une telle bénédiction qu'on ne voudrait pas ne pas y être passé. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas. Hébreux 12. L'épreuve,
oui, c'est l'épreuve.
L'épreuve laisse derrière elle deux sortes,
deux types de personnes,
les vainqueurs et les vaincus. Jésus a dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur mon trône, assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Un beau cantique. Qui sont ces gens aux radieux visages que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas, sur le rivage, s'assembler pour monter aux cieux? Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Et le refrain dit, des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux, qui par la foi remporte la victoire, lavée dans le sang de l'agneau. Je vous remercie de votre attention et je pense que j'aime espérer que ces quelques enseignements concernant l'épreuve vous fassent du bien et des conséquences pratiques dans chacune non seulement de vos vies mais de nos vies. Comme disait le Seigneur, vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites.